comme nous sommes à Saint-Loup et que cet endroit a une histoire fort vieille, m'a semblé intéressant de vous introduire à la spiritualité des Pères du Jura qui a marqué de leur empreinte spirituelle tout le Jura, qu'il soit le Jura français ou le Jura suisse. Tout d'abord, une première partie sur les origines du monachisme jurassien, une deuxième sur la caractéristique spirituelle de ce monachisme et finalement quelques considérations d'actualité en quoi cette spiritualité peut nous rejoindre aujourd'hui. Alors les origines du monachisme jurassien, les premiers monastères en Gaule furent fondés par Martin de Tours, Saint Martin, dans la deuxième partie du IVe siècle, vers l'an 360-370, puis vers l'an 400, on voit le début du monachisme en Provence, avec le monastère de Lérins, les îles de Lérins au large de Cannes. Si vous allez une fois sur la côte d'Azur, profitez aussi d'aller sur les îles de Lérins, et pas seulement sur les sables de Cannes ou de Nice. Et également les deux monastères à Marseille, fondés par Cassien. Donc voilà les origines du monastère en Gaule, Martin de Tours, et du côté de la Provence. Et ensuite, ces communautés monastiques provençales ont émigré vers le nord, jusque dans la région de Lyon. Et c'est là où le jeune Romain a vécu dans un monastère de Lyon. Et en 435, il décida de se retirer dans un lieu désertique du Jura, au confluent des deux rivières. Et il sera bientôt rejoint par son frère Lupicin. Donc vous avez là sur la photo, ça ressemble beaucoup à Saint-Loup, vous voyez, de l'autre côté du Jura, dans la région de Saint-Claude, de ce que deviendra la ville de Saint-Claude. Romain et Lupicin, rejoints ensuite par d'autres disciples, fondent un monastère, là où deux rivières se rejoignent, et ce monastère prend le nom de Condat. Condat, C-O-N-D-A-T. Condat, ça veut dire justement le lieu où deux rivières se rejoignent, en celtique. Et ce monastère de Condat donnera ensuite naissance à une ville autour qui prendra le nom de Saint-Claude à partir du IXe siècle. Et ce monastère connaîtra une telle floraison que bientôt il essaimera dans la Bourgogne transjurane, c'est-à-dire de l'autre côté du Jura, l'actuel Jura vaudois. Saint Romain, c'est là une peinture que l'on trouve dans l'église de Saint-Claude, la cathédrale de Saint-Claude. Évidemment, on n'a pas de portrait de Romain, c'est imaginé. Saint Romain a fondé un monastère tout près de Saint-Claude qui s'appelle justement qui s'est appelé Saint Romain, où se rassemblaient des femmes, en fait la sœur de Romain et de Lupicin, qui s'appelle selon la tradition Yole, Y-O-L-E. Yole a fondé un monastère féminin florissant dans le village qui s'appelle aujourd'hui Saint-Romain, et de l'autre côté de ce village, à quelques kilomètres, il y a Saint-Lupicin, où il y a encore l'église de Saint-Lupicin, où se trouvent encore les reliques de Saint-Lupicin. Saint-Loup, c'est une contraction du nom Saint-Lupicin. Et ces deux frères, avec les autres moines de ce monastère, ont émigré, ont essaimé et ont créé beaucoup de monastères de l'autre côté du Jura, donc dans la Suisse actuelle, avec également le troisième abbé de ce monastère, Saint-Olien. Donc le premier abbé du monastère de Condat était Saint-Romain, le deuxième Saint-Lupicin, et à la mort de Saint-Lupicin, c'est Saint-Olien qui a repris le relais. Et alors la fondation la plus célèbre de l'autre côté du Jura, c'est Romain Mottier, que vous avez là en photo. Romain Mottier, c'est le plus ancien emplacement monastique de Suisse. Il fut fondé et garde le souvenir de Romain. Romain Mottier. Mottier, c'est une contraction de monastère. On trouve ça dans Moutier, Montreux. Mottier, donc, c'est le monastère de Romain. De même, le plateau de Saint-Loup garde la mémoire de son frère Lupicin. Selon une tradition, Lupicin, Romain, se serait retiré dans la grotte ou la baume en latin, elle s'appelait la Balmetta, la petite grotte, la petite baume. Alors ce que je vais dire est tiré de la vie des pères du Jura, qui présente les actions, la vie de ces trois pères du Jura, Romain, Lupicin et Olien, tous abbés du monastère de Condat. Cette vie est très intéressante. J'avais là le livre, mais je crois que je l'ai oublié dans ma chambre. Donc c'est édité par les sources secrètes. Ah ben voilà. Voilà cette vie des pères du Jura, qui a été publiée il y a quelques années, quelques 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites sur les pères du Jura, c'est pourquoi je n'ai pas une grande bibliographie à vous offrir. Mais il y a ce texte, et il y a une bonne introduction aussi sur le contexte, la vie monastique au 5e siècle. Quelques indications sur le plateau de Saint-Loup. La première mention d'une activité religieuse sur le plateau de Saint-Loup date du 6e siècle. C'est un document du chapitre de Lausanne qui nous dit que du temps de l'évêque Marius, ou on l'appelle aussi Saint-Mère, Marius avait transporté la capitale du diocèse, enfin, l'évêché d'Avenches, qui était la capitale romaine, à Lausanne. Et ce document nous dit qu'une église consacrée à Saint Didier se trouvait à côté de la grotte dite Balmetta, petite grotte. Donc on mentionne cette grotte déjà au 6e siècle. Donc c'est le nom de Saint Didier qui a été donné. Saint-Loup, Saint-Lupicin n'avait pas encore été canonisé à l'époque. Donc on a donné le nom de Saint Didier. Toutefois, le nom de Saint Didier, au moment de la Réformation, au 16e siècle, disparaît pour faire place à celui de Saint-Loup. Donc à partir de la Réforme, on a appelé ce lieu non plus Saint-Didier, mais Saint-Loup. C'est bien que les diacones d'aujourd'hui sont de Saint-Loup et non pas de Saint-Didier. On ignore d'ailleurs d'où vient cette substitution. Une hypothèse serait qu'un autel dans l'église de Saint-Didier aurait été consacré à Saint-Loup. De toute manière, on a gardé le souvenir de la présence de ces deux pères du Jura, Saint Romain. Le monastère qui est à quelques kilomètres garde ce souvenir. Et Saint-Loup, son frère. Ce qui est bien établi dans la tradition, c'est qu'une source jaillissait ici. Une source avec des vertus curatives. Une source qui est aujourd'hui malheureusement perdue. Une source avec des vertus curatives jaillissait à cet endroit. Saint-Loup aurait pu être connu comme Aigné, comme Acro, comme San Pellegrino, mais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que les personnes, puisque cette source avait des vertus curatives, est-ce que les personnes venaient s'y soigner ici dès l'Antiquité? On peut le supposer. On peut le supposer parce que des documents nous disent qu'il y avait dans ce monastère de Saint-Didier également une infirmerie où l'on soignait les personnes. Et plus tard, dès le milieu du XVIIIe siècle, cette source était connue, les gens venaient de loin pour s'y soigner. Dès le milieu du XVIIIe siècle, on a construit un établissement sur l'emplacement de l'ancienne église consacrée à Saint-Didier. Et si vous regardez la photo, vous avez dans le sous-sol, dans les fondements de la maison ici où nous sommes, de Saint-Loup, vous avez cette sorte de crypte qui est en reste de cette église de Saint-Didier, qui est très ancienne, qui est probablement une des plus anciennes constructions chrétiennes du canton de Vaud. Donc, au XVIIIe siècle, on a construit un établissement de bains qui était modeste au début et qui fut transformé au XIXe siècle par un hôtel. Et l'hôtel, vous le voyez tout à droite, donc c'est la partie là, que vous voyez devant la maison mère, celle qui donne direction ouest. Et c'est cet hôtel qui a fait faillite, c'est dans cet hôtel qui avait fait faillite que s'installèrent le 1er novembre 1852 les diaconesses. Avec 1er novembre 1852, c'est bien ça?
Oui, à la salle à manger où les gens mangent maintenant.
À la salle à manger où vous mangez maintenant, donc c'était l'ancien hôtel qui a ensuite été agrandi avec la chapelle et d'autres dépendances. Avec le fondateur de l'institution, le pasteur Louis Germont. Et plus tard, le premier hôpital fut inauguré quelques années plus tard, en 1897. Ce qui apparaît donc à travers ce bref rappel historique est que ce lieu est un lieu de prière et un lieu de soins depuis fort longtemps. Donc, il a été fondé à l'époque de l'activité des Pères du Jura. Ce lieu a sans doute été touché par leur spiritualité, dont nous allons tracer maintenant les grandes lignes. Alors, j'ai intitulé ce deuxième chapitre « La charité fraternelle, marque de la spiritualité des Pères du Jura ». En effet, la vie des Pères du Jura insiste sur cet aspect central de la vie chrétienne. L'amour fraternel paraît avoir été, plus que la prière, plus que la cesse, plus que la méditation ou la contemplation, la note dominante du monachisme jurassien. La charité semble avoir été la vertu majeure que les pères du Jura voulait cultiver, mettre en avant. Curieusement, la vie des pères du Jura ne parle quasiment pas de la vie liturgique, de la vie de prière. Sauf à quelques endroits que nous verrons tout à l'heure, où elle laisse deviner que la Lectio Divina et les offices monastiques rythmaient la vie de la journée des moines. Je pense que cette insistance sur l'importance de la vie fraternelle mérite d'être soulignée. Et je vous invite à voir cela de plus près. Romain, comme modèle d'abbé vivant de la charité, c'est ce que nous présente la vie des pères dans un portrait un peu idéalisé de l'abbé Romain, qui est très miséricordieux envers tous, patient et d'un calme parfait. Saint Grégoire de Tours, qui a écrit aussi quelques lignes sur la vie des pères du Jura, montrera la complémentarité de Romain et de Lupicin, des deux frères. Alors que Romain exerce la miséricorde de manière parfaite, et d'où Lupicin, lui, a davantage le sens de l'organisation, sait mieux corriger et diriger les autres, et sait d'abord être sévère envers lui-même. Voici un épisode significatif de la vie de Romain. Dans une grotte, il y avait des gens qui vivaient dans une grotte, Romain rencontre des lépreux entre Genève et Agone. Agone, c'est-à-dire l'ancien nom de Saint-Maurice, dans le Valais. Et la vie nous dit comment la charité de Romain s'est exercée envers ces lépreux en prenant comme modèle l'exemple de Martin de Tours. Martin de Tours, dont la vie a été racontée par Sulpice Sévère, et la vie de Saint Martin a été le best-seller de la littérature chrétienne de cette époque, du VIe siècle. C'était le livre le plus lu en Occident. Et on retrouve l'influence de Martin de Tours, en particulier sur l'insistance que l'on rencontre le Christ dans le pauvre, comme plusieurs épisodes de la vie de Saint Martin le mentionnent. Souvenez-vous l'épisode du manteau que Martin partage en deux, le donnant aux pauvres, et la nuit, c'était à Amiens, aux portes de la ville d'Amiens, une nuit de novembre, et la nuit, Martin fait un rêve et il voit Jésus recouvert de ce manteau qui lui dit « Ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. » Donc, cette idée de la spiritualité, de rencontrer Jésus dans le pauvre, on le retrouve dans la vie des pères du Jura. Je vous invite à prendre le texte numéro 1 que vous avez sous les yeux. Avec cette gentillesse particulière que l'on admirait en lui, Romain salue les lépreux de façon très aimable, les embrasse comme l'eût fait Martin, et dans un très saint élan de foi et de charité, leur donne à chacun un baiser. Et au matin, les lépreux découvrent qu'ils sont guéris. L'exemple de Romain est contagieux. Grâce à ce modèle de perfection et de charité, dit la vie, tous les frères, dans les merveilles qu'ils accomplissaient, suivaient l'exemple qu'il offrait à chacun. Cette image de l'abbé vivant dans la charité envers tous sera au cœur de la règle de Saint Benoît, qui met en avant la responsabilité de l'abbé d'être le premier, mais le premier à aimer, à exercer la miséricorde. Le récit de sa mort de la mort de Romain est aussi édifiante. Il a vécu sa mort comme un instant fort de communion. Texte numéro 2. Terrassé par un mal violent, il manda les frères auprès de lui. Et cette paix du Christ, qu'il avait lui-même gardée toute sa vie grâce à la pureté et la douceur de son âme, il la distribua à la foule de ses héritiers, en embrassant chacun. Et pur de toute faute, comme exempt de tout reproche, contemplant la mort avec joie, il expira.
Quelle année ?
Je m'en souviens plus. C'est la deuxième partie du 5e siècle. Voilà, je peux vous donner tout à l'heure, là, quelque chose qui ne l'ai pas marqué. Venons-en à Saint-Loup. J'ai intitulé ce chapitre Saint-Loup en abbé physiothérapeute. Cette charité des pères du Jura s'exerce plus particulièrement à l'égard des moines avec lesquels ils vivent. Ils sont sévères quand il le faut, mais ils montrent beaucoup plus souvent une tendre sollicitude et aussi beaucoup de tact et de psychologie. Il y a toute une psychologie du vivre ensemble qui est présent dans cette vie des pères du Jura. Par exemple, Saint Lupicin entreprend de soigner, comme une mère soigne son enfant, le pauvre corps d'un moine qui a péché par excès de mortification. Il ne mangeait plus, jeûnait, ne se déplaçait plus. Et le corps de ce moine est devenu un peu rigide. Et Saint-Loup a entrepris de le rééduquer comme le ferait un physiothérapeute. Je vous invite à lire le troisième texte. Tel un masseur, il se penche sur ce pauvre corps tordu et épuisé. Il l'étire en tous sens. Un à un, il lui assouplit les membres par des attouchements salvateurs. Le frère commence alors à étendre ses membres, à moitié engourdi encore. Il remet debout l'âne de son frère. L'âne, c'est-à-dire le corps. François d'Assyrs parlera de son frère âne pour parler de son corps. Il le fit renoncer à ce qui nourrissait sa vanité et dès cet instant lui rendit si bien la vie quand il était à deux pas du tombeau, que ce frère vécut ensuite de nombreuses années encore, témoignant par sa survie et son activité du pouvoir miraculeux et de la charité de ce père. Saint Lupicin infirmier. Vous voyez que les diaconesses de Saint-Loup ont de qui tenir. Et par cet exemple, Lupicin a enseigné un thème important dans le monachisme ancien, le thème de la voie royale, de la via regis, qui est de se tenir éloigné des excès de la vie, mais de chercher le juste milieu, la voie royale. Je crois que vous avez ce texte. Par un exemple évident, il enseigna clairement que personne dans la vie religieuse qu'il a embrassée ne doit marcher parmi les escarpements de la droite ou parmi les déclivités de la gauche, mais au milieu, suivant la direction donnée par la voie royale. On voyait que ses pères avaient une attention à la vie concrète des personnes, à leur corps, soit en exerçant des vertus, des qualités d'infirmier, Et cela ne m'étonnerait pas que, quand bien même aucun texte ne le dit, qu'il y avait là, ici à Saint-Loup, avec la présence de cette source, des gens qui venaient au monastère pour non seulement prier, mais aussi pour chercher en mieux être dans leur corps. Des textes, en revanche, nous disent de ce qui se vivait à Condat, donc de l'autre côté du Jura, que ce monastère est devenu une sorte de communauté de guérison, tant par la prière qui est offerte aux personnes tourmentées par toutes sortes de maux, que par les soins infirmés qui y sont prodigués. C'est une spiritualité incarnée. Le souci de la santé a toujours été présent dans la vie de l'Église. L'Église a pris au sérieux cette dimension en mettant en place des structures sanitaires. Elle le fait encore aujourd'hui. Mais aussi les guérisons manifestent l'avènement du royaume de Dieu. Elles sont des signes de la présence du Christ ressuscité, là où des personnes se rassemblent en son nom, là où il y a foi, amour et unité. Et c'est sur ce point-là que la vie du Jura, me semble-t-il, est très intéressante, parce qu'elle montre comment une communauté de foi qui met en avant la communion fraternelle, la vie dans l'unité, permet que des personnes viennent, qu'on prie pour elles, et que ces personnes reçoivent une guérison. Il y a donc un charisme de guérison dans cette spiritualité des Pères du Jura. Le texte 5 nous le dit clairement. On amenait des hommes tourmentés par les démons et par les autres fantômes diaboliques, afin que la prière des saints jointe à leur propre foi les guérit. On amenait des fous et des paralytiques. La plupart de ces malades, après avoir recouvré la santé, retournèrent chez eux. Mais d'autres restèrent au monastère, observant jeûne et veille avec tant de compunction que par un admirable retour des choses, ils chassaient désormais les possédés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le diable avec ses satellites et ses ministres, et que ceux qui voyaient cela s'écriaient, c'est vraiment là un changement dû à la droite du Très-Haut. Donc ce passage nous fait mieux comprendre pourquoi ces monastères ont été des pôles d'attraction à leur époque. Pourquoi il y a tant de personnes qui venaient dans ces monastères? Pourquoi ces monastères ont grandi si rapidement et essaimés dans toute la région du Jura? C'est parce que la foi et l'amour fraternel vécu dans ces communautés provoquent des changements. Les pères ne sont pas des thaumaturges isolés d'une communauté. S'il y a des miracles, ce sont des grâces du Seigneur qui est présent au milieu d'une communauté unie en son nom. Texte 6 nous le dit, le bienfait des miracles éclate d'une manière toute particulière dans la foi et l'amour. Le bienfait des miracles éclate d'une manière toute particulière dans les lieux reconnus comme le séjour de la grâce, parce que les mérites d'hommes unis dans la foi y font converger de façon plus habituelle les faveurs divines. Donc ce sont des lieux, ce qu'on appelle des lieux de l'esprit. Là où il y a fraternité, là où il y a unité, il y a une présence plus dense de Dieu, et le Christ ressuscité peut agir plus facilement. Autre point, au fil de la lecture de la vie, les Pères du Jura se précisent en climat fraternel, régnant dans la communauté. En regroupant les différents passages, on arrive à dessiner un vrai petit traité de la convivialité, en art du vivre ensemble nous est proposé par ses pères. Tout d'abord, une charité qui n'exclut personne. Parce que Dieu nous a aimés en premier, sans exclure personne, sans attendre que nous l'aimions, l'abbé Hoyant adressait sa charité à tous. Texte numéro 7. Jamais il ne fit exception de personne. Il embrassait les pauvres aussi bien que les riches. Les uns et les autres étaient admis en sa compagnie et pouvaient s'asseoir à ses côtés. Prêcher par l'exemple, tel était le principe d'Hoyant. Il n'enseigna jamais rien d'autorité, dit la vie, sans avoir auparavant illustré le précepte par son exemple ou par son travail. Donc c'est toute cette dimension de la fraternité sera reprise par la règle de Saint Benoît. La règle souligne l'égalité entre tous les membres du monastère. Je la cite, l'abbé ne fera pas de distinction entre les personnes, que sa charité soit égale pour tous. Donc les moines apprennent à être les premiers, mais les premiers dans la charité, dans la miséricorde. S'il y a une primauté de l'abbé, c'est d'abord celle d'être à la tête d'une révolution d'amour. Et à la fin de la règle de Saint Benoît, on parle de la charité comme devant être la norme de la relation entre les frères. Ils se préviendront d'égards les uns les autres, il se témoignera en chaste amour fraternel. Donc voilà ce premier point sur la fraternité, une fraternité qui n'exclut personne, qui est la première à prendre l'initiative, et l'égalité des membres du monastère. Deuxième point, se réjouir des dons de l'autre. La vie nous dit que le secret de la vie communautaire est de célébrer les dons reçus par l'autre, frère. Les dons de la nature, mais surtout les dons spirituels. Texte 8, il nous est dit de Romains, que la découverte chez un frère de la simplicité et de la pureté lui procurait plus de plaisir que la conscience de son habileté personnelle et de sa philosophie. Et pour faire ainsi place à l'autre, le considérer comme supérieur à soi-même, célébrer les dons qu'il a reçus, cela demande la vertu d'humilité, qui considère les autres comme plus grands que soi. Je cite le texte de la vie. Hoyant méditait non sur sa valeur présente, mais sur l'abîme qui le séparait encore de la perfection, comme s'il était le plus méprisable, le plus petit de tous. Il y a toute une psychologie dans la vie des pères du Jura, qui veut montrer que le principal obstacle de la vie fraternelle, c'est la jalousie, c'est le manque d'humilité, c'est l'orgueil. L'orgueil qui peut prendre n'importe quel frère à un moment donné, même le frère le plus humble, le plus obéissant et le plus doux. L'orgueil est quelque chose qui guette chacun. Texte numéro 9. Le diable agit peu à peu, graduellement. Il jette en son cœur une étincelle d'orgueil, née du sentiment de sa valeur. Quand il le voit flamber, vite il enflamme contre lui certains frères piqués au vif à la suite d'une discussion. Ceux-ci attisent quotidiennement le feu de cette âme déjà échauffée par l'orgueil. D'autres individus, cependant, avec les chaînes de leurs beaux discours, et les liens séducteurs du siècle le tirent hors de la communauté et l'exercent à ne plus supporter de tels personnages, mais plutôt à tout quitter. Troisième point de cet art de la convivialité, du vivre ensemble, la communion des biens précédée par la communion des âmes. Les pères du Jura n'allaient pas seuls vers Dieu. Il leur importait de susciter l'union des cœurs. Il leur importait de communiquer ce qu'ils vivaient. Ils communiaient par des partages spirituels, mais ils communiaient aussi par le partage des biens, par l'entraide. Et les deux textes suivants que vous avez sous les yeux le disent de manière touchante. Texte 11. Content de leur dénuement, ils pratiquaient avec une telle ferveur l'union des cœurs dans la charité et la foi. Voyez cet événement de la communion de l'âme. Et vient ensuite la communion des biens, que si un frère ayant reçu un ordre pour quelque tâche était sorti par un temps froid, ou s'il venait à rentrer tout trempé par une pluie hivernale, et la pluie dans le Jura en hiver est froide, chacun à l'envie quittait un vêtement plus agréable ou plus sec, ou retirait ses chaussures afin de vite réchauffer et réconforter le corps de son frère plutôt que de songer au sien. Selon l'usage des temps apostoliques, personne absolument ne disait « ceci est à moi ». La différence entre l'un et l'autre résidait dans la seule propriété du nom et non dans la considération de la fortune ou de la noblesse. Tout en tout appartenait à tous. Voilà l'idéal de la vie apostolique, des temps apostoliques, de la communauté de Jérusalem devant les yeux. Je reviendrai sur ce point. Quatrième point de cet art du vivre ensemble, se nourrir l'esprit. Bien sûr, la source de cette tension vers la charité, il y a la tension permanente vers le Christ, la vie dans sa grâce, par la lectio divina qui était pratiquée, et les offices de la communauté. Et comme je le disais, la vie des pères n'en parle pas beaucoup. En endroit, elle parle de la lecture quotidienne des règles, de la vie de Saint Basile et de Saint Pacôme, qui, en particulier Pacôme, insiste beaucoup dans sa règle sur l'amour fraternel dans la communauté monastique. Il lisait également la règle de Saint Cassien, qui, lit-on dans la vie des pères, était préférée, était mieux adaptée à leur situation en Gaule. Et puis bien sûr, à la source de la vie communautaire, il y a la grâce de Dieu, la grâce de Dieu accueillie par l'écoute de l'Évangile à travers la Lectio Divina, la célébration des offices. Deux textes en particulier nous disent que les pères du Jura veulent d'abord être disciples de la parole, l'écouter, la lire, la prier, la célébrer, la mettre en pratique. Voici ce que dit dans les textes 13 et 14, Poyen, le troisième abbé, pour qui la méditation de l'Évangile et la prière contenaient la joie du ciel et une anticipation du paradis. Il fait référence de la lecture de la Bible au réfectoire. La lectio lui procurait un tel réconfort qu'il lui arrivait très souvent, pendant qu'on lisait au réfectoire, d'être subjugué par l'amour des biens futurs et d'entrer dans une sorte d'extase, au point d'en oublier la nourriture placée devant lui. Une joie profonde s'emparait de lui, méprisant la pérégrination de la vie présente, il aspirait ardemment au droit de cité préparé dans la patrie céleste. Je vous laisse lire la suite pour avancer. La charité fait fleurir la vie communautaire. On l'a vu, à la fois les gens accourent dans ces monastères, beaucoup y restent, et après il y a un essaimage. Je vous laisse lire également le texte numéro 5. Et j'en viens au quatrième moment de cet exposé. que j'ai intitulée « Spiritualité anachorétique et communautaire ». Donc l'anachorèse, c'est le fait d'être ermite, hein, c'est de se retirer dans la solitude, comme l'a fait Antoine. L'histoire des Pères du Jura a commencé par l'établissement de Romains dans les forêts jurassiennes. Cet homme a tout quitté pour chercher Dieu, dans la solitude. Donc l'anachorétisme met en lumière le primat de Dieu. Dieu avant tout. Dieu par-dessus tout. Dieu qui veut être aimé de tout notre cœur, de toute notre force. Il souligne la radicalité d'une vie appelée à suivre le Christ. Et cet idéal ascétique, fait de solitude, de prière, est resté vivace dans la spiritualité des Pères du Jura, comme le montrent ces passages de la vie, en particulier les textes 14 et 15, qui relatent les longues veilles et la lectio divina, les prières des Pères. Mais Romain a fondé une communauté, et il est devenu son premier abbé, suivi par Lupicin. Et comme la vie des Pères du Jura le montre bien, les valeurs de la vie communautaire, de la vie cénobitique, sont exaltées. Ce chemin plus communautaire de la vie spirituelle se lie à toutes les pages de la vie des Pères du Jura. Pour sa théorie, il faut se tourner vers la règle de Saint Basile et de Saint Pacôme. On découvre les principes de la vie communautaire, mais surtout vers Augustin d'Hippone, vers Saint Augustin, qui a été le grand chantre de la vie communautaire, en cherchant en particulier à mettre en évidence la communauté de Jérusalem, les premiers apôtres, et aussi de chercher l'archétype de la vie communautaire dans la vie d'unité et de diversité dans la Sainte Trinité. Ces deux grandes orientations de la vie spirituelle, la voie individuelle et la voie communautaire, ces deux grandes orientations, une spiritualité individuelle, une spiritualité communautaire, seront synthétisées dans la règle de Saint Benoît. On y rencontre l'élan ascétique, anachorétique, de tout quitter, d'être seul devant le seul. Cela revient constamment. Cependant, dans la règle de Saint Benoît, comme dans la vie des Pères du Jura, l'idéal de la communion a pris de plus en plus de place, créant une communauté désireuse de revivre la vie des premiers chrétiens, d'avoir un seul cœur et une seule âme. Et cette deuxième orientation entre de manière décisive dans la règle de Saint Benoît, mais elle était déjà très présente dans la vie des Pères du Jura. Et j'en arrive à ma conclusion que j'ai intitulée « Actualité de la spiritualité des Pères du Jura ». Union à Dieu par la prière, union à Dieu dans la solitude. Voilà une spiritualité individuelle qui met l'accent sur la contemplation. Union à Dieu à travers le service, la charité, une communauté de guérison qui met des compétences infirmières au service des pauvres qui viennent à Conda, à Saint-Loup, à Romainmôtier. Donc une spiritualité du service qui met l'accent sur l'action et union à Dieu à travers la vie fraternelle dans une communauté. Une spiritualité communautaire qui met en avant l'élément de communion. La vie des Pères du Jura nous rappelle ces trois dimensions de la spiritualité individuelle, spiritualité de service qui mène à l'action et spiritualité de communion. La spiritualité individuelle souligne la valeur du silence, de la solitude, de la prière pour arriver à la communion avec Dieu. Mais l'union à Dieu dans la prière serait incomplète si elle n'était pas accompagnée du service envers le frère, et en particulier le frère dans le besoin, en qui le Christ nous attend. Il y a toute la spiritualité de Martin de Tours, mais aussi le frère dans la communauté, la présence de Jésus, du Christ, dans la vie fraternelle. Voilà donc, semble-t-il, c'est cette actualité de la spiritualité des Pères du Jura. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous remercie de votre attention.